Et par rapport à Violaine, je lui ai demandé si, je lui en ai parlé, elle aussi, elle aurait bien aimé s'occuper des tout débutants, mais comme on n'a pas eu le temps d'en parler, j'ai préféré faire donner ce boulot-là à Juliette, vu qu'elle connaissait le morceau que je voulais leur faire faire. Et Juliette s'était déjà tout petit peu occupée de débutants, tandis que Violaine, pas du tout. Donc Violaine, je lui ai demandé de finir le boulot que j'avais commencé, c'est-à-dire quand j'apprenais un morceau, ceux qui avaient de la difficulté à l'apprendre, à tout assimiler, j'allais très vite pour tout expliquer, comme ça ceux qui allaient plus vite, ils apprenaient tout de suite. Et après, je pouvais m'occuper d'un autre groupe. Pendant ce temps-là, Violaine prenait ma relève et puis finissait le morceau. Donc, et elle a dit qu'en fait, ça lui convenait très bien ce boulot-là. Elle était plus capable de faire ça, juste comme ça, sans préparation. Que si je lui avais demandé de s'occuper de débutants. Donc, pour pouvoir apprendre à quelqu'un d'apprendre, en fait, et ça nécessite quand même une préparation avant, qu'on n'a pas eu le temps de faire forcément.
Et tu fais ça comment?
L'idéal, ça serait, pour les gens que je ne connais pas, enfin, que je connais pas, que je connais moins, comme Violaine, il faudrait que je lui apprenne d'abord les morceaux très 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 facile, et que je donne un cours aux débutants devant elle. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire, et qu'elle prenne la relève ensuite. Parce que le problème de Violaine, c'est qu'elle était tellement tellement douée au départ que elle n'a pas eu de mal. Donc elle connaît pas le problème des débutants. Et c'est pour ça qu'elle m'avait demandé de faire ce boulot-là, que je lui apprenne à faire ce boulot-là. Bon, on en a parlé par la suite, mais bon, ce qui n'a pas été vraiment possible de faire, quoi. Elle a été confrontée quand même à des gens qui ont du mal à assimiler, du mal à mémoriser, à prendre des points de repère. Bon, les gens qui mélangent tout.
Et elle a déjà suivi d'autres stages avec toi?
Oui, Violaine, hein, oui.
Ah, ouais. Et elle a déjà formé des gens, elle?
Non.
Non.
Non, justement, c'est pour ça
Justement,
qu'elle voudrait
d'accord.
apprendre.
Elle a suivi d'autres stages aussi, elle avait dit, je crois.
Ah oui, elle est allée en. Oh oui, plein, plein, plein. Elle a travaillé avec plein de gens. Elle a travaillé avec Elena Polonska, elle a travaillé avec Patsy Seddon, elle a travaillé avec Marini Carassi, une Irlandaise qui fait plein d'ornementations. Et elle est élève régulier de Dominique Bouchaud et de Mariani Clarentec. Et sinon, il y a. Bon, dans l'ensemble, je pense que les gens ont été contents. Ce qui ressort des commentaires généraux, c'est qu'apparemment, je suis la seule à faire apprendre de manière d'oreille, quoi, de apprentissage routinier.
La
Je
salle.
suis la seule des harpiste. Parce que là-bas, ou même en Bretagne, paraît-il que Dominique Bouchaud, il commence à faire ça aussi, mais c'est partition. Chacun est dans son coin avec sa petite partition, puis le prof, il passe d'élève en élève, quoi. Apparemment, c'est ça, d'après ce que j'ai entendu. Et les gens qui viennent, qui découvrent, ils découvrent vraiment ça, que c'est vachement bien et qu'au moins ça fait.
Mais quelle différence y a?
La différence, c'est que je pense que les gens apprennent quand même plus vite. Et la réaction à la dernière, juste à la fin, bon, je donne quand même des partitions parce qu'il faut des doigtés, il faut des choses pour que les gens travaillent par la suite, quoi. Et le magnétophone, l'enregistrement, ça suffit pas. Et quand j'ai donné les partitions, il y a la dame, Laure, qui a essayé de rejouer. Elle a sauté sur la partition parce qu'elle,
Ça
elle
brûle
est
tout
très
le temps.
classique, elle est très classique et elle a toujours appris par partition. Bon, elle vient à mes stages, elle aime bien parce que je la force à apprendre d'oreille, mais elle a quand même sauté sur la partition. Elle regarde la partition et puis, ah! Et ben, maintenant que j'ai la partition, j'arrive plus à jouer! Et j'ai trouvé ça très rigolo. C'était la révélation. Elle avait compris, en fait, que c'est pas parce qu'on a la partition, ça correspond pas en musique traditionnelle exactement à ce qu'on joue. C'est pas possible de l'écrire, en fait. Que les ornementations, c'est pas vraiment des triolets, c'est pas vraiment un rythme de sicilienne, là. On dit que ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'est juste entre les deux. Les rilles, c'est pareil. Les ornementations, c'est pas vraiment. Et même le rythme en lui-même, le swing, c'est pas écrit, c'est pas possible de l'écrire. Il n'y a pas de correspondance exacte en solfège. Et en fait, quand elle s'est retrouvée devant la partition, elle n'a pas su lire la partition.
Elle retrouvait pas le morceau qu'elle avait joué, en
Voilà,
fait.
c'est ça. Parce qu'en fait, elle lisait note à note, et le fait de lire note à note lentement, en déchiffrant, elle avait perdu le fil. Alors qu'en apprenant directement, le swing vient même si les gens ne sont pas capables de swinger vraiment parce qu'ils n'ont pas la technique, ils ont le sens général du morceau. Oui, ça peut permettre. Oui, ça.
Un phrasé plus naturel, plus spontané.
Mais c'est plus au niveau de la phrase musicale elle-même, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de technique, ils peuvent pas maîtriser le son pour avoir vraiment le phrasé correct. C'est impossible, on peut pas demander
trop tôt.
Là, c'était vraiment génial, quoi, comme réaction, parce que.
Ils ont une vue plus globale de la phrase musicale.
Voilà, c'est ça, plus globale.
Plutôt que des fragments de notes qui se juxtaposent. En fait.
Voilà, c'est ça. Donc là, sur la partition, c'est une suite de notes. Sinon, c'est une phrase complète. Ou un segment. Et on voit bien l'enchaînement des choses. Et en fait, dans la foulée, là, j'ai repensé à autre chose. J'en ai rediscuté avec Violaine. Le fait, pour un débutant qui commence tout de suite sur partition, quand il regarde sa partition, il ne regarde pas sa position de doigt. Donc forcément, il ne la surveille pas, il ne la corrige pas. Et ce qui fait qu'il prend plein de défauts. J'ai vu la différence avec Camille, qui est douée de toute façon au départ. Donc ce n'est pas un très bon exemple. Mais je lui ai toujours appris les morceaux de cette façon-là, au bout de 3 mois. Bon, il y a encore quelques petits détails. Bon, là, le contrôle du son, par exemple, le contrôle des doigts, elle ne contrôle pas encore bien. Mais elle a une très bonne position. Bon, il y avait là une petite qui était là, qui avait pourtant plusieurs années de harpe. Alors, je ne sais pas trop, je pense qu'elle n'a pas travaillé régulièrement, ce qui fait qu'elle n'a pas eu de prof régulièrement, qui était très jeune, donc elle n'a pas pu faire le boulot toute seule, c'est normal. Et elle a appris de façon classique, c'est-à-dire en regardant une partition, et ce qui fait que sa position, elle ne pouvait pas la rectifier. Et là, je pense qu'au stage, ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle a vu des gens qui étaient plus forts qu'elle. Ça, je pense que ça l'a stimulée. Et elle a compris, je pense, beaucoup de choses, à mon avis. Enfin, je n'ai pas rediscuté avec elle, mais je pense que ça...
Ça lui a permis de se positionner, en fait, par rapport aux autres.
Voilà, c'est ça. Et je pense d'en sentir l'utilité, parce que c'est possible. Bon, elle travaille régulièrement avec un prof classique, c'est très possible que le prof, régulièrement, elle lui dise, bon, allez, rectifie, puis que peut-être que
qu'elle voit pas
l'utilité.
Ouais, qu'elle voit pas quoi ça fait, en fait.
Voilà. Mais j'en ai pas discuté avec elle, il se peut que je me trompe complètement. Je pense que c'était chouette. En plus, elle avait une même âge que Camille, alors elles sont bien entendues toutes les deux, c'était chouette.
Bien, on repart à zéro. Alors tu fais comme si tu ne m'avais rien dit, comme si tu ne me connaissais pas.
Oui, ça va te dire.
Mademoiselle de Lavier.
Oui, monsieur
de Quelle drôle d'idée de jouer de la harpe.
Alors, une drôle d'idée. Ah oui, évidemment, parce que moi, quand j'étais petite, j'ai toujours fait à l'envers des autres. J'ai déjà au départ l'esprit de contradiction. On m'a dit, apprends le piano. Non, tout le monde fait du piano. Je ne veux pas jouer de piano. Donc, je veux faire de la harpe, parce que personne ne joue de la harpe. Voilà, c'est commencé comme ça. Mais en fait, bon, j'avais vu dans un feuilleton à la télé une belle harpiste qui faisait des glouglous avec une belle robe. Puis quand on est gamin, c'est sûr,
quand on est gamine,
on se dit, oh, c'est beau, et puis on veut faire pareil. Et puis, alors je me suis rendu compte très vite que c'était pas vraiment pareil que dans le feuilleton.
Ils fournissaient pas la robe avec.
Ils fournissaient pas la robe. La harpiste dans le feuilleton, elle savait pas du tout jouer, alors elle faisait glisser, elle frottait les cordes avec toute la paume de la main, ça. Et puis quand je suis arrivée, moi j'avais jamais vu de harpe de ma vie, j'avais jamais vu quelqu'un qui en jouait, et je suis arrivée dans la classe, bon d'abord j'ai vu la prof très sévère, je me suis dit oulala, et puis elle était en train d'engueuler quelqu'un en plus quand je suis arrivée. Et puis, et au lieu de faire ça avec ses doigts, la fille, elle a accroché ses cordes et puis elle tirait dessus. Elle a accroché ses cordes aux doigts. Ses doigts aux cordes. Et je dis, oulala, je suis embarquée dans une drôle de galère. Et puis, en fait, ça fait 20 ans que ça dure. Voilà.
Mais on t'a dit de faire de la musique ou bien t'as eu envie de faire de la musique et puis t'as eu le choix? Ou bien on t'a dit, bon, il faut que tu fasses de la musique, il faut que t'apprennes un instrument ou
tout? Ah non, pas du tout, c'est moi qui ai voulu.
Tu voulais faire de la musique?
Je voulais faire de la musique et j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent au conservatoire.
Ah, mais pourquoi tu voulais faire de la musique? Il y avait des musiciens dans ta famille?
Oui, mais En fait, c'est une lubie. Ah ben tiens, un tel, ben, joue du piano. Ma mère, quand elle était jeune, elle jouait du piano. Enfin, je l'avais jamais entendu. Et puis, chez mon grand-père, il y avait donc un vieux piano. Et puis, j'étais tout le temps, chaque fois que j'allais chez mon grand-père, j'étais en train de jouer à 8 ans au clair de la lune. Alors, j'avais tout un répertoire comme ça et un ordre. Et puis, je tapotais, quoi. Il était faux comme une casserole, donc je savais rien du tout de solfège, de ré mi fa sol, si je connaissais rien du tout. Mais je reproduisais les sons en fonction de la justesse du piano. Donc,
t'avais déjà une oreille juste alors.
Ben, je me rappelle plus, mais apparemment oui. Et c'était très rigolo. Je me repérais toujours sur la même note une touche qui était pas coloriée, mais qui avait des
stries.
Oui. Elle était striée, quoi. Ah ouais. Donc elle avait un dessin particulier, la touche, et c'était ma touche de point de repère. Et à partir de là, j'allais là où c'était juste, quoi. Donc peu importe, les touches noires et les touches blanches, je savais par cœur là où je devais aller, quoi. Je m'amusais comme une folle là-dessus.
Et t'as appris pendant combien de temps, alors, l'art classique ?
L'art classique, j'ai appris pendant 10 ans, ouais. 8 ans, je sais plus.
T'as passé des examens, tu ?
Ah oui, ça, évidemment. On ne peut pas y couper. Hein.
Ouais.
Ça. Après, j'ai même passé le concours d'entrée au Conservatoire supérieur de Paris. Et j'ai passé deux fois, j'ai raté les deux fois. Enfin, la première fois, j'étais admissible quand même. J'ai pas insisté parce que vu l'ambiance qu'il y avait, je me dis que ça allait vraiment pas me plaire. Et que... Parce que c'est un milieu à part, les harpistes, quand même.
Pourquoi c'est un milieu à part ?
Très snob. Regarde-moi, moi j'ai un beau manteau de fourrure et puis un pantalon Newman et puis un machin Lacoste et puis c'est... Voilà quoi. Et ça me plaisait pas vraiment quoi, parce que les nanas qui parlent chiffon, ça a jamais été mon truc.
L'herbe celtique, alors ça tombe, c'est tombé comme ça tout d'un coup ou c'était une rencontre, un coup de foudre?
Ben, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête parce que quand j'avais une dizaine d'années, c'est-à-dire quand j'ai commencé la harpe, c'était l'époque où Stivell était au Hit Parade. Donc c'était ma première rencontre avec l'harpe celtique en fait, et la musique traditionnelle relativement quoi. Donc j'ai cherché, j'ai tanné mon papa pour qu'il aille m'acheter au magasin du coin une cassette du top 50 qui passait en fait, parce que c'était de la harpe en fait, et de la harpe différente. Bon, je connaissais le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Bon, c'était bien, j'adorais ça. J'aimais de la même façon Alan Stivell, quoi. Trimartolode et tout ça. Et puis après, bon, il n'y a plus été à la mode. Et puis j'ai suivi mon cursus classique. Je connaissais rien d'autre. Donc pour moi, c'était... Il n'y avait que ça. Je connaissais que ça. Donc je me disais, je suis obligée de le faire. Bon. Et puis... quand j'ai dû avoir 16-17 ans, ma mère, elle est partie en Irlande faire un petit voyage organisé, comme on en a l'habitude. Et puis, elle sait que j'aime bien la musique, tout ça, ou que je suis passionnée. Donc, elle m'a ramené un disque de Bossy Band. Alors là, ça a été la révélation. J'ai tout redécouvert, j'ai été rechercher des trucs d'Alan Stivell, ça a recommencé comme ça. Et puis... Et oui, il y a un truc qui me tournait dans la tête aussi, c'est que pendant les vacances, quand je m'en allais en vacances et tout ça, je pouvais pas prendre ma harpe avec. Et puis en plus, je suis du genre paresseuse, alors bon, porter tout ça, c'est casse-pieds, c'est lourd, c'est grand, c'est long à accorder, enfin ça n'a pas changé. Et puis...
C'est moins lourd, c'est moins grand.
C'est moins long à accorder, oui. Et puis... Et je me dis, si j'avais une petite harpe, ça serait drôlement pratique. Et puis je pourrais aller me balader, je pourrais partir, je pourrais la mettre dans la voiture, je pourrais partir en vacances avec. Puis ça a commencé comme ça. Puis un jour, c'est vraiment très curieux, au conservatoire de Rueil, où j'étais, là où je préparais l'entrée au conservatoire supérieur, parce que c'était le même prof, j'ai vu une publicité sur, parmi d'autres affiches, stage de harpe celtique à Saint-Brieuc, telle date. Et puis, entre deux, j'avais rencontré quelqu'un qui, dans un stage classique que j'avais fait, quelqu'un qui avait une harpe celtique, qui faisait aussi du classique à Lille. Et j'ai essayé sa harpe et je dis ça y est, je vais m'en commander une. Et quand j'ai vu la publicité pour ce stage, je dis il y a pas, je me commande ma harpe et puis je me lance quoi. Puis je veux avoir une harpe pour aller à ce stage. Puis c'est là que ça a commencé. Donc de là, j'ai rencontré plein de gens en Bretagne, j'ai rencontré des groupes qui faisaient de la musique traditionnelle. Bon, c'était pas les meilleurs que j'ai rencontrés là-bas depuis, mais enfin ça a commencé, c'était là. Et suite à ça, alors j'ai passé les concours. Bon, pour moi, il y avait que les. Comment à l'époque, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on puisse pas faire de la musique sans passer des examens et des concours. Donc j'ai passé le Cornard Bob à Lorient. De là, j'étais à Killarney. Et puis voilà. Mais là, il y avait un problème, c'est que je n'étais pas bretonne, alors j'étais un peu rejetée. Hein, parce qu'ils sont un petit peu susceptibles, ces gens-là.
Ah oui.
Alors, voilà un peu, oui. Et ce qui fait que. Ben, je me suis vite tirée, quoi. J'ai pu mis mon nez là-dedans parce que ça m'énervait.
Quoi?
Ben, d'abord, la première des choses, quand j'ai eu le prix à Killarney, au Festival de Lorient, on m'a dit « Ah oui, en général, les harpistes qui gagnent le prix à Killarney font un concert au Festival de Lorient, mais comme toi, tu joues plus d'Irlandais, que tu n'as pas beaucoup de répertoire breton, faudrait que tu prépares un répertoire breton pour l'année prochaine. » Alors j'ai dit « Oui, d'accord, mais on ne m'a jamais pu recontacter. » Paraît-il que ça dure encore. C'est Violaine qui m'a dit ça, que Violaine, quand elle a eu le Cornard Bob il n'y a pas longtemps, il y a l'année dernière, je pense, on lui a dit « Non, les Irlandais n'ont pas de sous. Cette année, vous n'allez pas passer le concours à Killarney. » Et on lui a dit « C'est Mathilde, tu connais ?» Je ne sais pas si tu connais Mathilde.
La parisienne, non,
oui, la parisienne. Qui a dit « Oui, c'est parce que tu n'es pas bretonne. »
Elle n'est pas bretonne, Violaine.
Non. Alors, on attend la suite, quoi.
Donc des harpistes celtiques, pas bretonnes, ça existe.
Oui.
Il y en a beaucoup.
Ben j'en connais quelques-unes. Violaine, Mathilde, et puis toute la clique de Dunkerque là maintenant. Ouais. Mais je pense qu'il y en a. Il y a une classe de harpe celtique à Lyon, mais bon, ça se fait de façon très très classique.
Hein. Et qui est-ce qui enseigne à Lyon?
Ben je.
Tu connais pas?
Si c'est. Je connais Brigitte Malgontier. C'est, je l'ai rencontrée aux rencontres de l'harpe à Lille l'année dernière, qui m'a l'air très intéressante au point de vue travail. Elle a quand même un esprit classique, plus classique que traditionnel, dans le sens où je pense qu'ils vont quand même travailler sur partition et tout ça, mais elle a une volonté de... C'est pas elle qui me l'a raconté, mais j'ai lu des articles sur elle. De faire jouer à tout prix les gens, de tout niveau, à la limite, dans toutes les occasions possibles, les sortir de leur école et de les faire jouer ensemble et de les faire prendre leurs pieds, quoi. Mmh. Et ça, c'est déjà une démarche assez extraordinaire par rapport au milieu, quoi. Ah oui.
Explique-toi.
Par rapport à mes expériences de harpiste classique, c'est surtout ne pas sortir du programme. C'est comme l'école. Il faut suivre le cursus, il faut travailler ses études, travailler des exercices, et puis, peu importe si on joue en public ou pas, il faut passer les examens. C'est les examens avant tout, pour passer de boîte en boîte, d'étiquette en étiquette. Et puis le reste après, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il y a aussi une espèce de possession, j'en parlais aussi avec Violaine, possession des profs. Les bons, surtout les bons, hein, forcément, appartiennent aux profs et il faut surtout que l'élève n'aille pas travailler avec quelqu'un d'autre, surtout parce que le prof la retient, quoi. Oui. C'est difficile à expliquer.
Pourquoi il la retient?
Pour son...
Ça passe pas dans le magnéto, ça. J'ai pas l'image encore.
Comment on peut dire ça? Pas pour son plaisir personnel, mais pour
sa renommée.
Pour sa renommée, pour remplir son niveau supérieur. Au plus les profs ont de bons élèves en niveau supérieur, au plus ça fait bien, quoi. Mmh. Et les morceaux, pareil, les arrangements, même chose, surtout ne pas tout dévoiler. Quand bon, ça c'est relativement compréhensible, mais bon, quoique. Les arrangements que le prof peut faire, ils attendent de donner aux élèves une fois que c'est dans un recueil et que le recueil puisse être acheté aux élèves.
Donc ils ne se préoccupent pas tellement de faire jouer les gens ensemble, donc de les faire jouer ailleurs.
De les faire jouer ensemble, si, je pense.
Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, enfin.
Mais ça dépend où, je pense. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. En classique, peu importe. En tant que harpiste, on n'a pas la place, on n'a pas notre place dans une classe de musique de chambre, par exemple. Moi, à partir du moment où j'étais suffisamment forte en flûte traversière, parce que j'ai fait de la flûte traversière aussi, conservatoire, pour faire de la musique de chambre en flûte, on m'a dit, ah bah c'est plus la peine que t'en fasses en harpe, t'en fais en flûte. Et déjà, c'était déjà pas mal que j'ai réussi même à concourir en harpe, en musique de chambre. C'était révolutionnaire à l'époque au conservatoire.
Pourquoi ?
Ah bah parce que ça se faisait pas.
Ça se faisait pas, pourquoi ?
Ah, ça se faisait pas. Ah bah alors ça, j'aimerais bien savoir. ça se faisait pas.
Comment tu vois la différence de pédagogie entre la musique classique et la musique trad, alors ? Est-ce qu'il y a des grosses différences, à part le fait qu'on apprend par cœur ? Je pensais surtout, moi, par rapport au fait de jouer ensemble, de rencontrer d'autres musiciens.
Il y a le côté convivial qui n'existe pas en classique.
Ouais.
Et les gens, quand ils jouent ensemble, ils prennent leurs pieds, ils s'amusent. En classique, ils ne s'amusent pas.
Et pourquoi il y a cette différence ?
C'est l'esprit dans lequel c'est enseigné. C'est tout un contexte qui n'existe pas en musique classique. Dès le départ, les gosses sont orientés vers la technique, vers les examens et après vers un poste, un concours d'orchestre, pour être titulaire de quelque chose et être fonctionnaire. C'est le moule.
Et s'il se passait la même chose pour les musiciens traditionnels, par exemple, il y a des profs de harpe celtique ou des profs d'autres instruments de musique traditionnelle dans un conservatoire qui est le même. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir le même moule qui risque de se mettre en place ?
Je crains pas trop.
Parce qu'il pourrait aussi y avoir une formation.
En harpe, c'est ce qui.
Une sélection.
Oui. En harpe, c'est pour ça que je me bats en fait. Parce que c'est ce qui se passe. Mmh. Mais le problème, c'est que l'harpe, par rapport à la musique traditionnelle, à la limite, pas de rapport. Les gens qui enseignent dans une école de musique, ou même... et ça, c'est un vieux... Ça date de... C'est dans la mémoire collective, ça, je dirais. Il y a eu à partir du moment où il y a eu la rupture... je vais très loin. En Irlande, avec les anciens harpeurs, il y a eu l'influence classique de l'harpe. Il y a eu en même temps l'arrêt d'une certaine forme de musique chez les harpistes. Il y a eu une cassure en fait. Et toute la musique, toute l'influence de l'art classique, c'est ça qui a tout bouffé en fait. Ce qui fait que ceux qui sont à la base du renouveau de l'harpe celtique partout, c'est des gens, des harpistes qui ne connaissaient pas la musique traditionnelle.
Et pourquoi ils ont utilisé la musique traditionnelle ? Ils n'utilisent pas la musique traditionnelle, peut-être aussi. Ils jouent de la musique classique sur des harpes celtiques.
Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que ceux qui prennent la petite harpe pour un parent pauvre de la grande harpe, et que c'est les gamins qui jouent sur une petite harpe, puis après, quand ils seront grands, ils pourront jouer la grande harpe.
D'accord.
Ça, c'est une chose. Donc, ils jouent aussi bien des transcriptions de Jean-Sébastien Bach, bon, c'est vachement bien, sur la petite harpe, qu'un morceau, un andro ou une mélodie bretonne. Mais ça sert, c'est la mélodie uniquement qui sert de support à un exercice ou une étude. Mais
pour une technique,
différente,
en fait. Pour une technique classique.
Technique classique. Ouais. Mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est vraiment, ils ne savent pas ce que c'est que le swing, ils ne savent pas ce que c'est que la danse. Je parle en général, parce qu'il y en a qui savent, de toute façon. Et parallèlement à ça, il y en a qui disent vraiment qu'ils font de la musique traditionnelle, qu'ils essayent d'en faire, mais en fait que il y a tellement de retard derrière par rapport à, je sais pas moi, un flûtiste ou un violoniste ou une cornemuse qui que de toute façon tu peux pas faire autre chose que de la musique traditionnelle. Enfin, si, tu peux faire autre chose, mais
il y a une histoire dedans.
Voilà, c'est ça, il y a une histoire. L'art n'a pas d'histoire. Ça a été cassé, complètement cassé. Et la majorité des harpistes font fausse route par rapport à la musique traditionnelle, hein, je parle. Bon, mais c'est bien de faire, ça au contraire, je critique pas, les gens, il y en a chez des profs en Bretagne qui justement se battent contre l'idée que la harpe est un parent pauvre de la grande, ce qui fait qu'au lieu de la musique, de faire que de la musique bretonne, enfin, je dirais même pas de la musique traditionnelle, de prendre comme support la musique traditionnelle, et en même temps de faire des transcriptions de Bach, des transcriptions et même de la musique contemporaine. Parce que c'est très à la mode, ça, la musique contemporaine. Donc ça c'est bien.
Rapidement, si j'ai pas assez, je te rappellerai. En ce moment, tu travailles sur des trucs qui sont spéciaux, ou bien tu continues ton petit train-train de harpiste folk?
Harpiste folk, quelle horreur.
Est-ce que t'as, je sais pas, ouais, des projets de travail ou des trucs comme ça?
Ah oui.
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 Raconte-moi vite fait parce que je vais m'en aller.
Sur la recherche de la musique, de l'ancienne musique irlandaise avant au Carolan et avant, c'est-à-dire art metal, ancienne technique de art metal, étouffée, c'est-à-dire les basses qu'ils faisaient, les accords et tout ça, la résonance des cordes, donc ce qui fait qu'il faut étouffer certaines cordes pour pas que ça fasse un carillon, les mélodies qui sont très pentatoniques et qui n'ont rien à voir avec la musique tonale d'aujourd'hui, c'est ça la grosse différence, la recherche des ornementations qui se rapproche fortement, je pense, comment on appelle ça, les Irlandes et cornemuses écossaises.
Pibroir.
Voilà, c'est ça. À mon avis, ça doit se rapprocher de ça.
C'est quelle époque, ça, au Carolan?
18e. Au Carolan, c'est 18e. Oui, je pense que c'est 18e. Et il y a des morceaux aussi qui ont été collectés par M. Bunting à Belfast, qui datent du 17e.
Et il était collecté quand?
Au 18e. Je pense qu'il y a trois dates, mais la principale, c'est en 1792, lors du rassemblement des harpistes à Belfast.
Et au Carolan, il était présent, là?
Non, il était plus vieux au Carolan, je pense.
Pas, moi, je me demande.
Si, il était. Je pense que c'était un des. Je pense qu'il jouait encore sur art metal. Si, mais je peux que je dise des bêtises là, il faudrait que je me renseigne précisément. Mais le tout dernier à jouer sur une harpe métal, c'était un monsieur qui s'appelait Empson et qui avait 90 ans en 1792. Mais lui déjà, il jouait peut-être sur harpe métal, mais il avait déjà des influences de l'époque baroque et romantique. Donc.
Pré-romantique.
Ouais. Donc il y a certains morceaux, et c'est ça qui est intéressant dans notre travail, c'est de faire la différence entre les morceaux qui sont d'influence baroque très très forte, où c'est vraiment Do majeur, enfin j'exagère, mais ils n'utilisent pas le mode de Do majeur, c'est Sol majeur, Fa majeur et le mode mineur. Et entre les morceaux les plus anciens, alors on ne sait pas trop si c'est des compositions vraiment du 17e dans l'esprit d'autrefois, ou si c'est vraiment des morceaux qui restaient d'une époque très lointaine et qui sont là franchement pentatoniques. Et sont vraiment géniaux, ces morceaux-là. Alors ça a été réarrangé de façon tonale, c'est épouvantable. Il n'y a plus rien de... Le caractère pentatonique est complètement effacé. Mais quand on reprend que la mélodie, c'est merveilleux. Alors, il faut reprendre et chercher le mode et reprendre et jouer avec un bourdon qui revient toujours. Mmh. Et là, on revient à la musique traditionnelle.
Et tu travailles toute seule là-dessus ?
Avec John Wright, surtout. Et Gérald Riquebourg et Jean-Michel Allais, au basson.